Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des rencontres avec les artistes du Festival International des Jardins aux Ortillonnages d'Amiens, qui se déroule du 26 mai au 16 octobre.
Les abris Anderson qui étaient construits pendant la Seconde Guerre mondiale, à base de tôles ondulées cintrées, dans ce qui la rendait très résistante, pour que les gens puissent se protéger des bombardements. Donc il y en a eu jusqu'à 3 millions de distribués de tôles cintrées dans les quartiers ouvriers anglais, où les gens mettaient ça dans le jardin, allaient se protéger. Sauf que ici, y a pas une porte et un fond. J'ai remplacé cet abri en un tunnel, comme quoi c'est juste un passage. Et avec vraiment cette échelle enfantine, on a une porte d'entrée qui fait 50 cm par 70. Donc soit l'adulte se met vraiment à quatre pattes s'il veut passer le tunnel, l'enfant il y arrive dans tous les cas. Et une fois qu'on est au centre, au fait, cette structure un peu absurde, un peu énorme, elle soutient que du bois de chauffage bien rangé. Finalement, il doit y avoir au moins 8 stères de bois, donc ça doit faire quelque chose comme 5 tonnes. Donc au fait, j'ai l'impression que quand on est dedans, comme on n'a pas triché et que c'est vraiment rempli de bois, on a le poids des bombes, le poids qui tombe dessus, et puis on peut ressortir. Donc voilà, ça passe pas à la radio, mais je vous avais ramené quelques images pour que vous puissiez voir les abris Anderson d'époque. Et une image modèle qui m'a servi un Anglais avait construit son abri Anderson en le recouvrant d'un tas de bois, comme celui qui a été reproduit ici. Et c'est vrai que proposer ça aux ortillonnages, c'est aussi le bois de chauffage qui vient vraiment des ortillonnages, c'est beaucoup du frêne et tout ça. Donc c'est pas comme recevoir une stère de bois qu'on commande, qui est tout bien prédécoupé et tout ça. Là, il a fallu, mon travail de sculpteur, ça a aussi été de ranger, de choisir les petits bouts de bois pour qu'avoir vraiment, quand on est en face du tunnel, un carré que je trouve très esthétique dans ce paysage, le petit tunnel qui permet de passer, et rendre hommage. En tant que sculpteur, j'ai toujours été fascinée par ces gens qui rangent le bois. Des fois en rond, ça ressemble à des yaourts, des fois en long. Et là, finalement, c'est une sculpture dont le socle porte le bois. Donc le bois, ça serait la sculpture. Mais la structure, elle est quand même bien dessinée. Donc elle fait aussi partie du travail qu'on a mis en place.
Et combien de temps ça vous a pris à le concevoir ?
Le plus long, c'était la recherche, trouver les idées et tout ça. C'est vrai que je m'étais intéressée à ces images de guerre aussi, parce qu'on est à Amiens et que j'avais des photos de la cathédrale sous les sacs de sable pour la protéger. Donc c'est quand même une ville qui a, on va dire, bien vécu ces guerres. Et après, les plans et tout ça, pour que ça rentre, on a travaillé avec un serrurier pour souder ces gros IPN à Saint-Amand-les-Eaux. Alors que la tôle a été cintrée par une entreprise qui s'appelle Petrus à Bapaume, qui est une des seules en France d'ailleurs, je pense, qui fait ça. Et après, la mise en place, c'est-à-dire l'installation du socle en métal et ranger le bois et tout ça, on avait pas mal de bras, donc en une semaine, on était sur place une semaine ensoleillé.
Et combien de poids maximum ça peut supporter ?
Ces abris, ils sont faits pour protéger surtout des éclats, c'est beaucoup la tôle. Mais là, en tout cas, vu la structure disproportionnée qu'on a fait, là, il y a 5 tonnes, mais on aurait pu en mettre encore plus.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ?
Oui. Donc, je m'appelle Séverine Hubard, je suis artiste. Je suis originaire de Lille, pas très loin d'ici, et j'ai un bout de famille à Amiens, donc je suis d'autant plus contente de participer à ce festival. Et ce festival, d'ailleurs, où j'ai aussi rencontré des paysagistes, et ça m'a vraiment bien ouvert l'esprit. Parce qu'il y a des durées qui sont très différentes pour les paysagistes. Il y a des nouveaux jardins qui ont été créés cette année, qu'on ne verra que dans quelques années, alors que nous, on est dans une autre temporalité. Et donc ça m'a bien intéressée. Et je fais surtout de la sculpture éphémère, c'est vrai pour beaucoup, ou des choses pérennes et monumentales, dont une à Dunkerque, dans la région, qui s'appelle le Sablier, qui est un monument pour l'opération Dynamo, on va dire. C'est la première fois que je me penchais sur ces histoires de guerre. L'opération Dynamo, on est en 1940, les soldats sont pris dans la poche et encerclés par les Allemands, et il faut les évacuer. On le voit dans le film Dunkerque de Christopher Nolan, qui est sorti en 2017. Et donc, pour célébrer cette opération, qui n'a pas été une guerre gagnée, mais sinon une évacuation réussie, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé des milliers de soldats, les soldats ont été sauvés un par un. Des grandes files d'attente sur la plage de Dunkerque, quand on regarde des images d'archives. Donc moi, j'ai pris comme symbole le sablier, et je l'ai construit en béton. Pour le coup, là, c'est la moitié du sablier, 50 tonnes de béton, 4 colonnes, et l'autre moitié du sablier, 50 tonnes de béton. Et les gens peuvent passer un par un, comme ça, pour, avec un jardin paysager autour. Donc c'était aussi mon premier rapport au paysage à Dunkerque. Donc en 2017, et puis là c'est un peu aussi deux choses qu'on retrouve ici. Ça peut servir, mais en tout cas, je tiens à préciser que le projet Abri ici a été dessiné pendant la période du Covid, où on parlait de gestes barrières, où on parlait de couvre-feu, donc il y avait ce rapport-là, c'est pour ça que je me suis intéressée à ces images, pas au moment où l'Ukraine et la Russie on se rentraient en conflit. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt un rapport enfantin, de parler aux jeunes générations qui jouent à la guerre, d'avoir un vrai rapport à la matière avec eux, et que ce moment de devoir s'abriter n'est qu'un moment de passage. J'ai créé un tunnel, c'est pas une impasse. Donc voilà, vivement qu'on soit sorti de ce tunnel.
Et vous savez combien de temps l'œuvre va rester en place ?
En tout cas, on l'a fixée pour qu'elle reste. Il y a des œuvres qui sont enlevées l'hiver, remises l'été, des œuvres qui sont faites pour qu'une seule saison. Celle-ci, on pense qu'elle va rester quelques années minimum, et sûrement qu'elle va être habitée par les insectes aussi. Il y a un vrai rapport à l'hôtel à insectes. Il y a des petits interstices, peut-être même des écureuils qui vont venir déposer les glands pour cet hiver. Dans le bois qui a été lui-même... et là pour chauffer l'hiver, donc ça serait marrant, la cohabitation des écureuils. Et...
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
D'accord, oui, je suis Wouter Manaert, je suis un auteur de bande dessinée flamand de Bruxelles. Dernier temps, je fais plutôt une série jeunesse pour Dargo, ça s'appelle Yasmina. Donc Yasmina, c'est une série de bande dessinée pour jeunesse, et ça parle d'une fille qui est obsédée par la cuisine. Mais la série en général parle d'écologie et jardinage et nourriture en ville plutôt. Donc ça parle de jeunes et de tous les thèmes que j'ai dit en ville.
Et qu'est-ce que vous venez faire aux Ortillonnages ?
Le festival m'a demandé de faire des croquis dans le... Comment ça s'appelle ici ?
L'Ilophago,
oui. Donc je fais des croquis des œuvres d'art qui sont exposées ici, et ça tombe bien, il y a un lien avec ce que je fais dans mes bandes dessinées. Ouais.
Quelle œuvre vous inspire le plus pour l'instant ?
Je ne connais pas les noms des artistes, mais ici c'est donc l'histoire derrière cette œuvre d'art, oui, est étonnant, donc c'est une sorte d'abri, qui était construit par les gens en Angleterre, donc c'est très... L'histoire derrière est intéressante. Et aussi graphiquement, c'est... Vous voyez, c'est un peu cubiste, abstract, dans une sorte de jungle. Donc graphiquement, c'est très beau. Mais derrière moi, il y a aussi une autre œuvre d'art qui est super. Et c'est totalement différent. Donc si on suit ici le petit chemin, on tombe sur un... on peut écouter juste les bruits, mais c'est amplifié par un cône en terracotta.
Les ortillophones ?
Ortillophones, c'est bien possible, mais ça fonctionne super bien en fait. Quand on écoute, on entend vraiment des détails minuscules, des petits oiseaux, des insectes, ça fonctionne super bien. Donc sonore derrière moi et le visuel devant moi, c'est parfait.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Moi, je m'appelle Justine Noël, je travaille avec Studio Basta. Studio Basta, c'est une agence de paysage qui est installée à Courtrai, en Belgique, entre Gand et Lille, disons. Voilà, c'est à peu près ça.
Et quel projet vous avez mené ici ?
Ici, le projet, c'est un jardin qu'on a appelé le jardin Accueillir, avec le jeu de mots accueil et accueillir, dans le sens où c'est un mix. On cherche à faire un jardin hybride entre un espace de détente et un jardin nourricier avec de la cueillette. Voilà. Et il faut savoir qu'avant, ici se trouvait sur l'île aux Fagots un jardin qui s'appelait la Houblonnière et qui était très apprécié des habitants du quartier. Il y avait des hamacs rouges et du houblon qui poussait sur des filins. Et donc, ce qu'on voulait, c'était retrouver aussi ici un peu de ce côté détente où on puisse lire un petit bouquin caché dans la végétation. Et là, on arrive à faire les deux, en proposant ce jardin. Donc, c'est un, si je peux décrire un peu à quoi ça ressemble, disons que c'est dans un cadre assez rationnel des allées de petits fruitiers. Donc on a des allées de petits fruitiers et à l'intérieur il va y avoir des transats qui vont s'installer de manière informelle pour faire un jardin un peu mouvant. Et on a installé aussi une guinguette qui est un cabanon dans lequel on range les transats qui peut s'ouvrir en bar aussi pour l'amusement des adultes pendant les événements. Et il y a aussi un grand mur en ardoise, ça c'est pour les enfants, pour qu'ils puissent dessiner. Il y a des enfants aussi, des classes qui viennent ici pour apprendre sur la biodiversité. Donc c'était important de leur proposer aussi un aspect pédagogique, qu'ils puissent se retrouver ici. Les encadrants peuvent en fait apprendre aux enfants les différentes sortes d'arbustes, de fruitiers. Il y a les noms qui sont installés sur des poteaux, on a utilisé des poteaux de châtaigniers échelés, donc ils sont un peu écorcés, et sur lesquels on a écrit les noms en français et en latin des différentes essences d'arbustes, qui sont toutes des arbustes à manger, quoi. Il y a du cassis, des groseilles, des fraises, des baies de mai, des myrtilles, qui sont déjà en train de donner, ce qui est assez rapide. Et on a sur place déjà deux poiriers qui sont là, le grand poirier qui est là et le petit qui est juste à côté, qui donne des poires, donc tout est à manger. Voilà.
Combien de temps ça vous a pris à mettre en place tout ça ?
Y a le temps de conception qui est plus long que le temps de chantier au final. Donc on a commencé à travailler là-dessus, je pense que c'était en mars. Et après, en mai, on a fait le chantier. Le chantier, ça nous a pris 4 jours, on était 8. Et on a eu beaucoup d'aide du festival. Ils ont déjà mis en place tout le nivellement du terrain, les allées. Ils ont tout ramené sur site, les différentes plantations. Ils ont monté les transats aussi. Et on a eu de l'aide de Guillaume Montis, qui est un menuisier. Qui a travaillé avec son frère pour monter la guinguette. C'est pas nous qui avons monté la guinguette, mais donc c'est des menuisiers de formation, donc voilà, c'était des gens qui étaient compétents pour le faire. Nous, on est paysagistes, on s'occupe du paysage, voilà. Voilà, c'est un jardin collaboratif.
Du coup, les passants peuvent cueillir comme ils veulent.
Oui, c'est ça. L'objectif c'est de voir plein d'enfants avec la bouche sale, avec des taches de myrtilles, de groseilles et de framboises. Au maximum. On a même de la menthe, il y a de la menthe aquatique qui pousse toute seule là sur le terrain. Donc il y a des odeurs de menthe aussi, on peut même manger l'herbe finalement. Voilà, tout est à manger. Et du coup, j'invite les gens à venir l'an prochain pendant la période des baies. Et le jardin devrait rester normalement 3 ans minimum, peut-être plus si ça plaît. Voilà.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, moi c'est Kokou Ferdinand Makouya, je suis artiste plasticien et voilà, je travaille à Paris et dans d'autres villes aussi.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de Akpaku ?
Oui, Akpaku, en fait, quand j'ai entendu parler du projet avant de l'envoyer, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se fait dans les environs. Et puisque je sais que c'est les ostionnages, je me suis intéressé essentiellement aux laitues. Donc ça, c'est la base du travail, c'est d'où je suis parti. Et après, petit à petit, j'ai commencé par réfléchir sur comment je peux arriver à l'intégrer dans ma production, parce que à la base moi je travaille sur ce que j'appelle la spiritualité de la matière. Donc l'idée c'était de créer à partir d'une matière de la matière terre, de l'argile, et de se plonger dans cet esprit de la laitue, et après d'évoluer vers quelque chose d'autre. Donc après, j'ai fait tout le travail en atelier avec le faux, et tout a été déjà réalisé. Et j'ai réfléchi sur comment est-ce que cette lecture peut être reçue. Et là, c'est d'où vient Akpaku. Akpaku, c'est la calebasse. Ça veut dire calebasse en langue mina, levée. Parler au sud du Togo, Bénin. Du coup, Akpaku, c'est utilisé dans les à la maison comme des ustensiles qui est utilisé pour beaucoup de choses, mais essentiellement aussi par les prêtres vaudous pour faire leur cérémonie. Donc ici, moi, je l'utilise comme le conservateur de secrets. Et j'ai essayé de poser des questions à beaucoup de gens qui aussi m'ont ramené des petits objets qui sont enfermés éternellement à l'intérieur. Et ces objets sont là pour inviter chaque année les esprits de l'environnement pour participer à une conversation générale.
Combien de temps ça vous a pris de la conception à la réalisation ?
Je pense que ça a pris assez de temps quand même. Je crois que si je ne sais pas si je ne peux pas mettre bout à bout le temps, mais je crois que dès que j'ai commencé, ça fait à peu près. J'ai commencé l'idée avant même de me projeter dans ce que ça pourrait donner. Donc je pourrais dire 9 mois facilement pour la vraie, dans le processus acharné comme ça que je suis en train de rentrer dans la dynamique de la, disons le processus, la vraie processus a vraiment duré 9 mois. Donc en atelier, je crois que j'ai passé 3 mois d'affilée pour la création de la céramique. Ouais. Et l'installation, ça a pris 2 semaines et c'est voilà.
Est-ce que vous pouvez décrire l'œuvre physiquement pour nos auditeurs qui ne la voient pas ?
Ok, là on a de la céramique qui est faite comme des murs, que j'ai fait comme des murs vagues. C'est pas des murs qui sont, c'est un peu en sinusoïdal. Et à chaque fois que à l'atelier, comment je faisais ça, je déposais des pains de terre au fur et à mesure pour monter tout un mur, et ça s'affaissait. Au fur et à mesure que ça s'affaisse, je cherche à le bloquer, et ça créait aussi des convolutions, des espaces, et du coup on a vraiment quelque chose qui ressemble à des vagues, au mouvement de la mer, ou peut-être qu'on peut réfléchir, on peut penser à des toitures. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres projets en dehors de celui-là ?
Je crois qu'il y a pas mal de projets, et là je suis en train de travailler sur mon exposition personnelle qui va avoir lieu en septembre, et ça va avoir une connotation directe avec aussi la céramique, mais beaucoup plus de matière qui va intégrer du charbon, du plastique, etc. Et l'idée c'était de faire venir une certaine réflexion sur ce qu'est devenu l'être après tous ces moments qu'on a traversés. Il y a Covid, il y a les guerres, il y a beaucoup de choses qui continuent, mais qu'est-ce que nous on devient? Est-ce que nous portons juste un manteau pour ressembler à ce où on vit vraiment ça au plus profond de nous? Et qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous donne comme réflexion pour le futur? C'est un peu c'est ça. Après, j'ai aussi une biennale au Congo et d'autres événements à venir quand même.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était une interview des artistes du Festival international des jardins aux ortillonnages d'Amiens qui se déroule du 26 mai au 16 octobre. Salut!